Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien? Nous attendons le Seigneur. Nous t'attendons. Nous t'aimons. Nous t'adorons. Et nous chantons Alléluia. Amen. Nous attendons le Seigneur. Et Alexis tout à l'heure disait que nous attendons le Seigneur, non pas sur nos projets, non pas sur les choses que nous avons définies, mais nous attendons le Seigneur sur ce que lui, il a défini, sur ce que lui, il a préparé d'avance. Et ces temps-ci, nous avons parlé de plusieurs sujets dans l'Église, nous avons parlé de l'agenda de Dieu, nous attendons le Seigneur sur son agenda, nous avons parlé de l'attente. Pendant ce temps que le Seigneur est en train de peaufiner l'agenda, nous attendons que les événements se déroulent. Nous attendons que les événements puissent chacun arriver en son temps. Parce que la Bible déclare aussi qu'il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que lorsqu'on attend le Seigneur, on l'attend avec la pensée que chaque chose viendra en son temps. Nous attendons le Seigneur et pendant que nous attendons le Seigneur, Alexis disait la semaine dernière que Dieu a un plan pour nous. Il y a une vision. On a vu l'exemple de Joseph. Dieu avait une vision pour lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez difficile. C'est les chemins de la souffrance. C'est-à-dire que pendant que nous attendons le Seigneur, pendant que Dieu a un plan pour nous, un projet pour nous, un agenda pour nous, nous passons dans des moments difficiles. Nous connaissons des temps de souffrance. Nous connaissons des temps compliqués pendant lesquels nous devons nous adapter et dans lesquels Dieu nous attend. Nous allons voir aujourd'hui que plusieurs hommes et femmes de Dieu avant nous ont vécu des temps de souffrance. Que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit les hommes de Dieu qu'on connaît aujourd'hui, ils ont connu des temps de souffrance. Mais comment est-ce qu'ils ont réagi dans ces temps de souffrance? Qu'ont-ils fait? Parce que c'était les temps d'attente de l'agenda de Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et donc, tous les thèmes qu'on a eus ce mois, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, nous parlons de comment nous réagissons dans ces temps de souffrance. Comment nous vivons les moments où Dieu est comme s'il était loin de nous, comme s'il était éloigné, alors qu'il a un agenda qui s'accomplit en son temps. Nous allons pour ça prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 1 au verset 9. L'apôtre Pierre écrit, il dit, « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Ce matin, ma prière pour chacun de nous, c'est que la grâce et la paix nous soient multipliées. Vous allez remarquer que dans les Écritures, dans les Épîtres, il y a toujours ce thème qui vient en introduction. La grâce et la paix. Et on va comprendre pourquoi, dans la suite des propos de Pierre, qui va parler justement des temps d'épreuve, de souffrance. Mais avant d'aborder son discours sur les temps d'épreuve et de souffrance, il veut d'abord que ceux qui l'écoutent soient dans la paix et que la grâce leur soit multipliée. La grâce pour comprendre les plans de Dieu et la paix pour être serein pendant qu'on attend l'accomplissement des plans de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que tu puisses te dire à toi-même, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, multiplie ta grâce dans ma vie. Ce matin, aujourd'hui et maintenant, donne-moi ta paix et multiplie ta grâce dans ma vie. On va prendre 2 secondes. Si tu peux te le dire maintenant à toi-même, tu fermes tes yeux et tu te dis, Seigneur, donne-moi ta paix. Dans toutes les difficultés que je peux traverser aujourd'hui, là, en cet instant, c'est ta parole que je veux écouter. Alors, Seigneur, donne-moi ta paix et multiplie-moi ta grâce. J'ai besoin que ta grâce descende sur moi et j'ai besoin que ta paix remplisse mon cœur. Je suis disposé, Seigneur, à recevoir ta paix. Tu as dit toi-même dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ce matin, je reçois ta paix que tu m'as laissée et je reçois la multiplication de la grâce dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer ce passage, merci. Il continue en disant, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Jésus-Christ, que nous aimons sans l'avoir vu, en qui nous espérons sans l'avoir vu, mais à cause de cela, nous recevons et nous recevrons en récompense, le salut de nos âmes pour prix de cette foi. Nous avons reçu par le témoignage des Écritures. La Bible déclare que nous vous parlons de ce que nous avons vu et entendu. Et nous avons cru à la parole prophétique qui a été annoncée par les Écritures. Cette parole, c'est encore celle que nous prêchons aujourd'hui au travers du monde. Et cette parole, c'est celle que nous entendons encore ce matin. La parole prophétique annoncée dès le commencement. Nous avons vu et entendu. Et ce matin, nous lisons que Pierre parle des souffrances. Il dit quoique, pour l'instant, et il dit un mot, si on peut remettre, s'il vous plaît, le verset 7, je crois, le verset 5. Voilà, merci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Il faut que vous soyez dans la souffrance. Il faut que vous soyez dans les épreuves, parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'en parle pas comme si c'était une fatalité. Il n'en parle pas comme si c'était quelque chose d'imprévu, d'inattendu, quelque chose que Dieu n'a pas prévu dans vos vies et qui vous tombe dessus. Il en parle comme quelque chose qui doit arriver, puisqu'il le faut. Tu as un appel. La Bible déclare que nous avons été appelés, tous autant que nous sommes, à vivre cette espérance de la vie éternelle. Nous avons été appelés pour être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Nous avons été appelés pour être transformés, pour être lavés, pour être régénérés. Comme Christ est mort, nous aussi nous sommes morts avec lui. Comme Christ est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. La Bible déclarant que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Mais pendant le temps de notre pèlerinage, il y a un travail que Dieu fait, un travail dans nos vies, parce que nous devons être semblables à la stature de Christ, afin que lorsque nous allions dans les nations proclamer sa parole, nous serons des témoins vivants, des ambassadeurs de Christ, des exemples, à tout point. Et cela passe par les moments d'épreuve où Dieu nous taille, où Dieu nous lave, où Dieu nous transforme, où Dieu fait de nous des êtres nouveaux et des femmes nouvelles, où Dieu fait de nous des personnes capables d'annoncer l'Évangile. Dieu fait de nous aussi des personnes capables de rentrer dans la vie éternelle. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ lui-même, il nous lave, il lave son Église, il la transforme pour qu'il puisse la présenter saint devant le Père. Et nos caractères, nos habitudes, nos pensées sont changées, sont transformées afin que nous soyons capables de recevoir l'héritage qui nous a été promis. Nous allons voir que dans la parole, les apôtres et les prophètes sont passés par ce processus qui les a amenés à être capables de prêcher librement l'Évangile, qui les a amenés à être agréables à Dieu, plus encore, qui les a amenés à rentrer dans leur destinée, dans les plans que Dieu avait prévus pour eux. Vous montrez Matthieu chapitre 7, verset 14. La Bible déclare, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Étroite est la porte, resserrez le chemin. Pensez-vous qu'il soit facile de marcher sur un chemin resserré? Si vous avez un chemin devant vous qui est large, il est facile de marcher. Nous pouvons y aller à gauche, y aller à droite et avancer en même temps. Mais si le chemin est resserré, il est difficile d'y avancer. Parce que le chemin est petit. Alors, à chaque pas, on fait attention pour ne pas sortir du chemin. Alors, le chemin qui mène à la vie est resserré. Il est tout petit. Ça veut dire qu'en y marchant, on fait attention où on met son pas, pour ne pas sortir du chemin. En y avançant, on fait attention comment on se comporte sur ce chemin, pour ne pas en sortir, parce qu'il est resserré. La porte, on l'a trouvée, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il déclare qu'il est la porte. Nous sommes rentrés par la porte. Il y a un chemin, c'est Christ ce chemin, mais nous marchons par ce chemin d'une manière ou d'une autre. Et nous, nous voulons marcher dans ce chemin avec la manière que Dieu a prévue. Pour que nous puissions effectivement arriver au bout du chemin. De Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7. Nous allons comprendre comment l'apôtre Paul a compris ce chemin. Il dit à Timothée, Timothée, homme de Dieu, disciple de l'apôtre Paul, et il l'appelle son fils spirituel. Il dit ici à Timothée, « Souffre avec moi. » Il parle des souffrances. Il dit, « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ça veut dire qu'un bon soldat de Jésus-Christ doit souffrir. « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Ah, c'est pas marrant, hein? Quelqu'un va te dire alors, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu vas dire, ah ben non, je n'ai pas envie de souffrir. J'ai envie d'être un bon soldat, mais pas de souffrir. Mais non, il dit, souffre avec moi. Parce que le bon soldat de Jésus-Christ souffre pour l'Évangile. Continuons, merci. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et celui qui nous a enrôlé, c'est le Seigneur. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles, s'il n'a pas su marcher sur le chemin. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Avez-vous vu un laboureur qui ne travaille pas et qui va au champ et qui recueille des fruits? C'est impossible! Un laboureur doit travailler le sol et espérer à la saison nouvelle qu'il y ait des fruits. Il faut que le laboureur travaille. Il faut que l'enfant de Dieu travaille avant de récolter les fruits de la vie éternelle. Alléluia. Et il lui dit à la fin, comprends ce que je dis. Comprends te parle des choses compliquées et difficiles, mais comprends ce que je dis. N'use pas de paresse. N'use pas de légèreté. Comprends ce que je t'explique. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Dieu vous donnera de l'intelligence pour comprendre les paroles de Dieu, pour comprendre ce que le Seigneur attend de vous, ce que Dieu attend de toi. Il déclare que si tu manques de la sagesse, demande à Dieu. Dieu te donnera de l'intelligence pour comprendre ta situation. Dieu te donnera de l'intelligence pour que tu avances sur le chemin étroit. Dieu te donnera de l'intelligence pour que tu ailles plus loin que là où tu n'es aujourd'hui. Mais comprends ce que dit le Seigneur. Le laboureur ne peut récolter les fruits s'il ne travaille. L'athlète ne peut être couronné s'il a couru suivant les règles. Voyez-vous, les athlètes de ce monde, les footballeurs, ceux qui font de l'athlétisme et tous les autres, ils s'entraînent, ils se préparent, c'est dur. Il y en a qui font des régimes. Il y en a qui mangent des spécialités parce que la discipline l'impose et l'exige et que l'excellence l'impose. S'ils n'ont pas une discipline, s'ils n'ont pas une manière de vivre, une manière de faire, ils n'arriveront pas au résultat. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il y a une manière de vivre, une manière de faire. Il y a un caractère à avoir pour avoir les résultats. Il faut que le soldat combatte. Il faut que l'athlète travaille. Il faut que le laboureur laboure. Il faut que le Fils de Dieu fasse ce qu'il a fait pour progresser, pour avancer et pour entrer dans les promesses de Dieu. Les promesses sont là, elles sont nombreuses pour chacun de nous. Chacun a des promesses sur sa vie, parce que Dieu t'a appelé, tu n'es pas là par hasard. Il a un projet pour toi, on l'a vu, on le sait. Comment on y rentre? On parle de souffrance parce que ces choses ne sont pas faciles. Il n'est pas facile de mettre une discipline en place pour un athlète. Il ne le fait pas aisément. Quand il travaille, il transpire. Il fait des pompes, il fait des muscles. Ce n'est pas rigolo, mais il est obligé d'en faire s'il veut des résultats. Un soldat pendant la guerre, il s'entraîne. C'est pas rigolo, mais il faut qu'il s'entraîne. Sinon, en chemin, sur le champ de bataille, il tombera. C'est dur. Il vit de la souffrance. Mais il doit la vivre pour être meilleur. Il y a des personnes, je dis de faire une pompe, il n'y arrive pas. Deux pompes, il n'y arrive pas. Cinq pompes, il n'y arrive pas. Parce qu'il n'a pas l'habitude de faire des pompes. Mais s'il s'entraîne et que tu reviennes une semaine plus tard, tu lui dis, fais-moi une pompe. Crois-tu qu'il y arrivera? Oui, il y arrivera parce que ce sera entraîné. Et donc, avec de l'entraînement, on progresse. Avec de l'entraînement, on atteint l'objectif. Mais on souffre. Mais on y arrive. Pour y arriver, il faut souffrir. Pour être un serviteur de Dieu, pour être une personne que Dieu peut utiliser, pour être une personne à qui Dieu peut parler, à qui Dieu peut révéler son plan, il faut se préparer. Dieu a un plan pour ta vie. Et tu passes par des moments où tu dois travailler. Travailler, travailler. Travailler tes habitudes. Travailler ton caractère. Travailler la parole, travailler dans la prière. Ah, il faut travailler. Ah, c'est pas facile. Il faut travailler. Alléluia. Nous allons lire un peu Deutéronome chapitre 3. Pardon, Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome 8, 3. Ici, on parle du peuple d'Israël. Un peuple qui, effectivement, lorsqu'il sort d'Israël, se dit que je vais dans un pays où coule le lait et le miel. Alors il se dit que tout sera facile. Je vais traverser le désert du Sinaï et je vais arriver là où coule le lait et le miel. Et l'Éternel, mon Dieu, me bénira. Oh Moïse, merci. J'ai quitté la souffrance d'Égypte. Maintenant, je vais rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais nous savons ce qui s'est passé. Nous savons comment le peuple d'Israël a tourné en rond. Parce qu'ils n'ont pas voulu souffrir. Ils n'ont pas accepté l'épreuve. Ils se sont toujours plaints de l'épreuve. Sans l'accepter. Sans la vivre. Sans progresser. Sans comprendre la volonté de Dieu. Il déclare ici, il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères afin de t'apprendre. Vous voyez, il y avait un objectif. Un objectif à la souffrance d'Israël. Afin de t'apprendre. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dans l'épreuve où tu es, Dieu veut t'apprendre quelque chose. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole est encore vraie pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur veut nous l'apprendre encore aujourd'hui, des années, des siècles après. Que l'homme ne vit pas seulement de ce que nous mangeons tous les jours, des frites, et du poulet. L'homme ne vit pas seulement, alléluia, mais l'homme vit surtout de ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui fait sa nourriture. Lorsque Jésus-Christ était avec la femme samaritaine, les disciples sont allés acheter de quoi manger et de quoi boire. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé le Christ avec une femme. Et la Bible déclare qu'ils ont pressé Jésus-Christ pour manger. Et Jésus leur a répondu, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les apôtres lui disent, et se sont dit entre eux, « Mais quelqu'un lui a-t-il apporté à manger ?» Non, parce que Jésus-Christ était en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà sa nourriture. Mais la volonté de Dieu se découvre dans la parole de Dieu. Alors Jésus vivait de la parole de Dieu. Sa nourriture était la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pour nous, nourrissons-nous de cette parole vivante et efficace. Nous allons lire au livre d'Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 8. Nous allons voir un peu le Seigneur Jésus. Nous savons tous qu'il a souffert à la croix. Et il déclare que c'est lui, en parlant de Jésus, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un ? Si, moi ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle moi-même. Quand je prie, avec des grands cris, avec des larmes aussi, ah bon, Jésus-Christ aussi est passé par là. Il a prié en pleurant, avec cris et larmes, comme moi. Oui, le Seigneur a voulu montrer un exemple. Tout n'est pas facile. Il a prié avec cris et avec larmes, comme toi. Jésus a pleuré dans la prière. Comme toi, Jésus a crié pour recevoir du Père quelque chose. La Bible dit, ayant été, quoi, exaucé à cause de sa piété, a appris, continuant, merci Seigneur, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Le Seigneur Jésus a appris, bien qu'il fût fils de Dieu, l'obéissance par la souffrance. Nous aussi, bien-aimés, il y a un objectif dans la souffrance. Il y a un objectif dans l'épreuve que nous apprenions l'obéissance à Dieu. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. C'est-à-dire que nous pouvons venir au culte chaque jour, nous pouvons faire du bien à quelqu'un, nous pouvons, n'est-ce pas, donner même notre propre vêtement à quelqu'un, mais l'obéissance à Dieu vaut mieux que tout ce que tu pourras faire. Si Dieu te dit, va à gauche, toi tu vas à droite, et qu'à droite tu fais des bonnes œuvres, Ce n'est pas de l'obéissance. Malgré tes bonnes œuvres. Parce que Dieu t'attend à gauche. Mais toi, tu es parti à droite. Tu as donné ta vie, tu as fait des sacrifices, mais Dieu t'attendait à gauche. Donc, ce ne sont pas les œuvres qui font que Dieu se plaise de nos vies. C'est l'obéissance à sa parole. Si dans l'obéissance tu chutes, Dieu te relèvera. Parce que tu étais dans l'obéissance. Si dans l'obéissance tu te trompes, Dieu t'apprendra. Il te conseillera. Parce que tu cherches l'obéissance. Tu cherches sa volonté. Tu cherches ses voies. Jésus-Christ, fils de Dieu, la Bible déclare, bien qu'il fût fils, qui sommes-nous? Des fils de Dieu. Nous sommes aussi des fils de Dieu. Et comme notre grand frère, la Bible déclare qu'il est le premier-né. Comme notre grand frère, je le répète, nous aussi, nous passons par le même chemin de l'obéissance par la souffrance, afin que Dieu soit glorifié. Dans Hébreux chapitre 10, les versets 32 à 39, la Bible déclare, dans le livre d'Hébreux, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ce dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Ce verset, ça fait des années, j'étais dans des moments d'épreuve et de souffrance, et ce verset m'a fait me poser une question. Qui suis-je? Suis-je de ceux qui se retirent face à la souffrance, face au questionnement, face au fait que je n'ai pas obtenu ce que je désirais, à l'instant où je le désirais, et de la manière où je le désirais? Ou suis-je de ceux qui persévèrent et qui ne se retirent pas? Et qui persévèrent, pourquoi? Pour sauver mon âme. Pas à cause des choses de ce monde, mais pour sauver mon âme. Parce que, n'oublions pas l'objectif, c'est de sauver notre âme. Ce n'est pas d'avoir une belle voiture, une belle maison. Ce n'est pas d'avoir des projets réussis. C'est de sauver nos âmes. Et nous persévérons à cause de cet objectif. Nous voulons sauver nos âmes. Et j'ai dû me positionner face aux souffrances et prendre une décision radicale et me dire, je ne me découragerai pas. Je ne me laisserai pas abattre. Je ne reviendrai pas en arrière. Si je doute, Dieu me fortifiera. Mais je continuerai. Parce que l'Éternel est ma force. Et il est le sujet de mes louanges. Alors j'ai continué. Malgré mes difficultés, malgré mes problèmes, malgré que je ne savais pas où j'allais, malgré que mes plans en tant qu'homme n'était pas comme j'avais prévu. Mais je me suis dit, cette parole me dit, le juste vivra par la foi. J'ai cru en Dieu, je crois qu'il a ma vie entre ses mains, je garde la foi. Quel que soit ce qui m'arrive, je crois qu'on l'a chanté, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim, la nullité, l'épreuve? Je déclare que rien ni personne ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Serait-ce la tribulation? Serait-ce la souffrance? Qu'est-ce qui me découragera? Parce qu'il me manque une voiture, une maison? Parce que je désire un mariage que je n'ai pas? Parce que je veux des enfants que je n'ai pas? Parce que je veux un travail que je n'ai pas? Qu'est-ce qui me séparera de Jésus? Est-ce des choses que j'attends et que je désire, mais que je ne vois pas s'accomplir? Eh bien, si c'est le cas, c'est que je me retire de la foi et je perds mon âme. Mais j'ai dit pour ma propre vie, je ne suis pas de ceux qui se retirent, parce qu'il y en a qui se retirent. Mais je veux être de ceux qui ont la foi pour garder leurs âmes, être de ceux qui ont la foi pour persévérer, être de ceux qui ont la foi pour dire « Oui, Seigneur, je suis encore là. Oui, Seigneur, je ferai. Oui, Seigneur, j'obéirai. Oui, Seigneur, j'avancerai. Oui, Seigneur, je ne me laisserai pas abattre. Oui, Seigneur, les souffrances arriveront, mais tu me relèveras au temps convenable. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour courir. Il y a un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour tout. Et il y a aussi un temps pour la souffrance. Et il y a aussi un temps pour sortir de la souffrance. Parce qu'il y a un temps pour tout. La souffrance n'est pas éternelle. Un jour, tu sortiras de l'épreuve. Mais il faut que tu sortes de l'épreuve par la grâce de Dieu. Et non pas parce que tu aurais fui l'épreuve. Parce que l'épreuve aurait accompli son objectif dans ta vie et son but. Hébreux chapitre 5, versets 7 à 8. Alors là, j'ai déjà lu celui-là, donc on va lire 1 Pierre 5, 6 à 11. 1 Pierre 5, 6 à 11. Il déclare, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Qu'il vous élève. Pourquoi il va vous élever? Parce que le temps de souffrance vous rabaisse. Le temps de souffrance vous humilie. Mais Dieu va vous relever au temps convenable. Et il va vous élever. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de vous. Même dans le temps de preuve et de souffrance, Dieu prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et là, on parle de la foi, de perdre sa foi. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant, et ça c'est important, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans le monde. Ça veut dire que tu n'es pas seul, tu n'es pas isolé. Ton problème n'est pas un problème d'aujourd'hui. Il y a eu des gens en Christ qui l'ont connu avant toi. Il y a des gens en Christ qui le connaissent maintenant comme toi. Et il y a demain d'autres personnes qui vont aussi vivre. Ton problème n'est pas un cas unique. Ce n'est pas un cas isolé. Tu as des frères et des sœurs en Christ, dans ce monde, qui passe aussi de ton épreuve. Et cela devait nous donner de l'énergie et de la force. Et nous dire, on est ensemble, dans l'épreuve. C'est pour ça qu'on prie parfois pour les églises, à gauche, à droite, les églises qui sont en Europe, en Asie, en Afrique, aux États-Unis. Parce qu'on sait qu'eux aussi, ils passent de ton épreuve. Et que c'est la volonté de Dieu qu'ils passent de ton épreuve. Parce que la Bible déclare que l'or pur est éprouvé par le feu. Alléluia. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Ah, il y a un temps après que vous ayez souffert. Donc la souffrance a une fin. Je reprends. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. En plus, la souffrance, il est marqué « souffert un peu de temps ». Un peu de temps selon Dieu. Peut-être que pour toi, ça dure depuis très longtemps, mais pour Dieu, c'est un peu de temps. Ce n'est pas beaucoup. Tu te dis, mais ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Dieu dit, c'est rien ça. C'est un peu de temps pour le Seigneur. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fera quoi? Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Vous rendra inébranlable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le début de ces versets, il dit « Le Dieu de toute grâce. » Toute grâce. Il vous fera grâce. Tenez bon, le Seigneur vous fera grâce. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé. Ça veut dire que vous n'êtes pas là par hasard. Dieu vous a choisi. Il connaît votre nom, votre prénom, vos origines. Il déclare qu'il sait, il compte le nombre de vos cheveux sur la tête. Il vous a appelé, il vous a choisi. En Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ce n'est pas un ange qui vous perfectionnera. Ce ne sont pas les hommes qui vous perfectionneront. Dieu lui-même, la Bible insiste dessus, lui-même, il vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça veut dire que face à tout ce qui pourrait encore vous arriver, vous serez inébranlable. Au sommet de votre art en Jésus-Christ, au sommet de votre force en Jésus-Christ, au sommet de votre puissance en Jésus-Christ, inébranlable. Au sommet de votre foi face au diable et aux ruses du diable, il vous rendra inébranlable. On peut continuer sur ce même verset, je crois, et encore un autre verset, voilà. À lui soit la puissance au siècle et des siècles. Amen. Ça veut dire qu'il est capable de le faire. Il a la puissance pour le faire. À lui soit la puissance. Il est plus fort que tes épreuves. Il est plus puissant que ta situation. Il est plus puissant que tes adversaires. À lui soit la puissance. Quand il le veut, il le peut. Quand il le décide, il le fait. Parce qu'à lui est la puissance. À lui est l'autorité. À lui est la force. Il est maître des temps et des circonstances. Dans ta vie, il est le maître. Nous allons conclure. On va lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, 8 à 11. Nous allons terminer par ce verset. La Bible déclare, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église du phare. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Que celui qui a les oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.